7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, la parole est à ceux qui veulent entreprendre sur le continent africain. Ça tombe bien, c'est la rentrée. Si vous êtes patron d'une PME qui démarre ou jeune diplômé avec des rêves et surtout un projet de start-up qui répond aux besoins des consommateurs dans votre pays, c'est l'occasion de dialoguer avec le coach Didier Akwété. Bonjour Didier.
Bonjour Emmanuel.
On est ravis de vous retrouver après l'été. Vous êtes fondateur et dirigeant d'AfriSearch, une société de conseil en ressources humaines, et vous passez régulièrement chez 7 milliards de voisins pour écouter, conseiller les jeunes entrepreneurs et entrepreneuses. D'ailleurs, les voisines, on attend aussi vos appels. C'est le même numéro pour tout le monde, WhatsApp et téléphone, 33 1 84 22 71 71. Surtout, vous nous appelez dès maintenant en direct avec un projet bien structuré pour dialoguer avec le coach.
7 milliards de voisins.
Il y a des talents sur lesquels moi je parie.
Vraiment, l'Afrique regorge de talents.
Didier Akwété, ça fait un moment qu'on n'a pas eu le plaisir de vous accueillir dans ce studio d'ici les Moulineaux à RFI. Vous avez participé au, il faut quand même qu'on revienne un peu sur les semaines antérieures de l'été, au forum Diaspora en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Il y a de plus en plus de forums Diaspora d'ailleurs.
Oui, effectivement, même vous vous souvenez, Macron a reçu la Diaspora à l'Elysée avec le président du Ghana.
Exactement.
Cet été, c'est vrai que la Diaspora revient au cœur de tous les enjeux développants.
Et au cœur des convoitises aussi, peut-être.
Ah bah certainement, il y a un enjeu économique, un enjeu politique. Il y a le fonds Diaspora, par exemple, du club Efficience, qui va également être lancé bientôt. Bon, il y a des enjeux économiques et des enjeux politiques.
On en fait trop ou pas sur la Diaspora, à votre avis?
On n'en fait pas assez, mais on devrait mieux faire, surtout. D'abord, c'est un réservoir de talents, comme on le sait. Et c'était un petit peu ça aussi l'esprit d'AfriSearch qu'on a commencé il y a bientôt 25 ans. Puis surtout, on se rend compte que c'est une force économique, puisqu'on estime que la diaspora transfère plus de 50 milliards de dollars chaque année vers l'Afrique.
Plus que l'aide au développement bilatérale.
Exactement. Et donc, comment capter ces ressources pour en faire un instrument de développement économique et non pas juste de consommation? Puis surtout, à cette période où on a besoin de plus en plus de ressources humaines de qualité, la diaspora redevient un véritable enjeu développement.
Alors, ceci dit, après, on entend souvent des entrepreneurs qui disent c'est pas simple hein, de revenir au pays pour entreprendre. Il y a des différences culturelles, des façons de travailler, des différences managériales, la façon aussi dont on est perçu aussi en tant que repat. Ce sont des sujets qu'on aborde régulièrement dans l'émission et peut-être qu'on en parlera d'ailleurs dans cette même émission aujourd'hui avec les jeunes entrepreneurs.
Absolument. Et peut-être pour compléter, c'est que beaucoup de pays mettent en place aujourd'hui des vrais plans diaspora, comme ce que fait le Rwanda, ce que fait le Ghana et la Côte d'Ivoire également en train de mettre en place un plan qui a l'air assez ambitieux. Mais je crois qu'il faut qu'on garde deux éléments à l'esprit dans tout ça, c'est que il y a une guerre des talents aujourd'hui qui se passe partout dans le monde et que si on n'arrive pas à capter nos ressources, les autres pays les captent, que ce soit les pays européens, que ce soit la Chine demain, etc. Et puis, deuxièmement, la question de la mobilité, c'est-à-dire comment on introduit de la mobilité dans le cadre de ces diasporas et ne plus imaginer qu'elle va forcément rentrer, se figer dans le pays, mais va plutôt faire des mouvements en Afrique, entre l'Afrique et le reste du monde. Et donc, comment est-ce qu'on conçoit des stratégies pour attirer tous ces talents qui rentrent, comme notre ami...
Alors justement, on démarre avec un premier porteur de projet, jeune entrepreneur, tout de suite. Et je vous rappelle notre numéro de téléphone, 33 1 84 22 71 71. C'est aussi un numéro WhatsApp sur lequel vous pouvez nous téléphoner gratuitement. Même si votre projet n'est pas encore tout à fait au point, vous pouvez discuter avec Delphine qui vous accueille au téléphone pour passer dans l'émission le mois prochain.
7 milliards de voisins. Parce que nous sommes tous des voisins.
On a la chance d'avoir un jeune entrepreneur en studio en face de Didier Akwété. Bonjour Francis.
Bonjour Emmanuel.
Vous avez
bonjour
36
Didier.
Ans.
Bonjour Francis.
Vous êtes franco-béninois, vous avez grandi au Bénin, vous êtes arrivé en France comme beaucoup de gens pour faire des études. Vous êtes diplômé, ingénieur diplômé en génie industriel à l'Institut Polytechnique de Cergy-Pontoise. Ensuite vous avez travaillé comme consultant en système d'information, paiement digital. Et puis vous avez fondé une plateforme digitale pour les travailleurs du secteur agricole, donc pour les agriculteurs au Bénin, je présume.
Exactement.
Qui s'appelle Agrosphère. Comment ça a démarré cette idée? Parce que maintenant, on voit un peu partout ces plateformes qui fleurissent, pas seulement sur le continent africain d'ailleurs.
Alors ça a démarré, c'est une combinaison de deux opportunités. Donc il y a un groupe de producteurs, des coopératives qui sont venus nous voir parce qu'on a monté justement une start-up qui est spécialisée dans la transformation digitale. Et ils nous ont exposé un besoin donc en disant quelles solutions informatiques vous pouvez apporter. Donc ce besoin, c'était simplement de leur permettre de délivrer les volumétries attendues par une usine qui transforme l'ananas qu'ils produisent. Ouais. Et donc ils avaient du mal à délivrer en temps et en heure de manière régulière le tonnage qui était attendu. Moi, j'ai pris cette problématique-là et j'ai essayé de voir autour qu'est-ce qu'on pouvait apporter de plus. Et l'idée est venue d'en faire une plateforme donc, qui permet aux acteurs du monde agricole en Afrique, donc que ce soit les producteurs aujourd'hui qu'on accompagne, mais demain, on commence à travailler déjà avec les transformateurs ou les exportateurs, donc de leur apporter une solution qui va leur permettre déjà d'être efficace dans ce qu'ils font et de pouvoir échanger avec les autres maillons de la chaîne agricole. Ouais.
Je suis par exemple, moi, gros producteur d'ananas au Bénin, où je suis un groupement de producteurs, une coopérative. Comment ça se passe? Je souscris un abonnement à votre plateforme. Et qu'est-ce que vous me proposez comme service?
C'est exactement ça. Vous souscrivez à cet abonnement, donc il n'y a rien à installer particulièrement chez vous.
C'est sur le smartphone.
C'est sur smartphone. Donc on vous donne cette application sur smartphone qui va vous permettre déjà, donc, sur le terrain au quotidien, vos équipes opérationnelles vont pouvoir collecter des informations sur ce qui est fait. Savoir exactement sur chaque parcelle où l'ananas est cultivée, à quel stade de l'évolution on est par exemple. Parce qu'on a vraiment découpé minutieusement toutes les étapes de culture de l'ananas et on permet justement de les suivre étape par étape. Ça permet aux responsables, par exemple, de cette exploitation, à chaque instant, d'avoir une vision d'ensemble sur ce qui est en train de se passer sur sa coopérative, au sein des différents producteurs, ou ce qui est en train de se passer sur une exploitation de plusieurs dizaines d'hectares. Mais en Afrique, on est beaucoup plus souvent sur le scénario de coopératives qui regroupent plusieurs petits producteurs et donc qui ont cette problématique-là de pouvoir coordonner de manière simultanée un certain nombre d'actions chez ces acteurs-là.
En fait, c'est presque comme s'il y avait un ingénieur agronome au service de chaque paysan, producteur, on a l'impression.
C'est ce qu'on apporte. C'est comme s'il y avait un spécialiste qui accompagnait chaque producteur et qui, à chaque instant, peut conseiller aussi donc, le responsable de l'organisation dans les choix qu'il faut faire.
Ouais. Mais alors, par exemple, moi, gros producteur d'ananas, je dois répondre à une commande de 5 tonnes. Je ne les ai pas. Vous n'allez pas faire pousser plus d'ananas?
Non. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'avant qu'on accompagne, par exemple, notre tout premier client, qui est le REPAB, donc je permets de leur passer un petit message.
Qui est une coopérative.
C'est une coopérative, c'est le réseau des producteurs d'ananas du Bénin. Avant qu'on les accompagne, qu'est-ce qui se passait? Quand ils doivent livrer 10 tonnes, par exemple, à l'usine, le responsable de l'équipe technique prend son téléphone et commence à appeler à gauche à droite les différents producteurs pour voir qui avait de l'ananas. Notre solution tue ce mécanisme-là. Il vient aujourd'hui, il allume son ordinateur, il a une page, un écran de pilotage qui lui donne exactement les producteurs chez qui l'ananas est prêt à être récolté. Aujourd'hui, demain, dans une semaine, et ainsi de suite. Et donc, il sort de ce mode un peu archaïque.
En fait,
où
on a
il
là
émet...
toute la production de l'ananas en live sur l'écran.
Exactement.
Semaine après semaine de tout le monde.
Exactement. Donc, c'est une vue d'ensemble et ça permet d'organiser la coopérative, mais d'être beaucoup plus efficace opérationnellement. C'est notre positionnement avec la plateforme Agrosphère, c'est d'être efficace opérationnellement au niveau de l'activité de chaque acteur. Donc, des coopératives aujourd'hui, des producteurs, demain, des transformateurs, après-demain, des exportateurs, ainsi de suite.
Comment vous êtes rémunéré? Donc, c'est de l'abonnement?
C'est un seul abonnement qui est très accessible, qui revient à 100 francs à peu près par jour par producteur. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on a voulu volontairement très abordable.
Donc, ça fait, l'abonnement, c'est à peu près moins de 5 euros par mois.
À peu près 4,50 € par mois, donc 3000 francs CFA.
Donc, vraiment abordable. Et ensuite, il y a des commissions qui sont prélevées sur les transactions éventuelles.
Exactement. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va permettre à chaque acteur d'être plus efficace, mais aussi on va les interconnecter.
Donc, il y a plus de business.
Il y a plus de business.
Et vous prélevez là-dessus.
On vient prélever des commissions sur les transactions. Aujourd'hui, on a une vraie problématique aussi en Afrique, c'est qu'il n'y a pas de relation entre l'offre et la demande dans le monde agricole. Les producteurs produisent en fonction de leur feeling. Les exportateurs ou les transformateurs, ils viennent et ils achètent ce qu'il y a.
Ouais. Là, vous proposez vraiment une brique de plus par rapport à ce qui existait où on avait surtout les cours en fait, actuels de telle ou telle production. J'imagine que vous voulez couvrir d'autres secteurs.
Bien sûr, la plateforme elle est agnostique, c'est qu'on a conçu aujourd'hui pour demain pouvoir intégrer n'importe quelle culture. On travaille déjà par exemple avec des producteurs de soja pour intégrer le soja, on a des discussions sur l'anacarde, on pense même pouvoir intégrer très facilement la pisciculture, des choses comme ça. Donc n'importe quel processus agroalimentaire qui peut être découpé en phases. On est capable de digitaliser cela et de le mettre à disposition sur la plateforme.
Il y en a un qui vous écoute très, très attentivement. Je vois quand il a des étoiles dans les yeux, Didier Akwété. Vous avez des questions au coach, Francis?
La première question que j'ai, c'est qu'on a une ambition d'être une plateforme, on va dire, à l'échelle de l'Afrique. On n'a pas créé une solution bénino-béninoise. L'objectif, c'est de s'étendre. Et la question que j'ai, c'est par rapport justement à cette ambition-là, comment est-ce qu'on gère cette envie de s'étendre pour ne pas s'étendre trop vite on a déjà par exemple des contacts dans les pays voisins, des coopératives qui sont très intéressées par notre solution. Quand est-ce qu'on juge que c'est le bon moment de se lancer?
À l'heure actuelle, vous êtes une équipe de 12 personnes?
Aujourd'hui, on a 12 personnes, dont 8 développeurs, 4 managers qui sont plutôt des seniors, qui sont spécialisés dans des verticales bien précises. Des verticales, on va dire techniques, j'ai un spécialiste de la sécurité de l'information qui nous accompagne.
Mais il faut des ingénieurs agronomes quand même pour fournir de l'info, non?
C'est indispensable. Nous, on est des techniciens informatiques. Donc, on développe des solutions, mais la connaissance métier, comment l'ananas pousse...
Où est-ce que vous allez la chercher?
Moi, je l'ai découvert. Aujourd'hui, je peux parler de l'ananas pendant des heures, mais il y a quelques mois, je ne connaissais rien de l'ananas. Mais on a travaillé avec des experts, des ingénieurs agronomes qui accompagnent les acteurs sur le terrain.
Mais qui ne font pas forcément partie de l'équipe?
Non, qui ne font pas partie de l'équipe, qu'on consulte, qui interviennent comme des externes et qui nous apportent cette compétence-là.
Didier, à côté.
Non, mais c'est même plus un projet, puisque c'est déjà opérationnel et ça fonctionne. Et Francis a raison, comment on arrive à cartographier l'information sur l'ensemble de nos filières? Et c'est vrai, c'est un vrai problème généralement. Et après, connecter l'offre et la demande, ça me rappelle les mangues au Mali où pendant des saisons, les mangues pourrissent au bord des routes et puis quelques mois après, il n'y en a plus.
C'est ça.
Comme dans nos pays, c'est vraiment dramatique. On doit facilement perdre 30 à 50% de nos productions, de nos produits agricoles.
Ça monte à 80% pour certaines productions agricoles, comme la tomate.
Oui. Donc en fait, la question de Francis sur le développement, ça dépend si on raisonne en termes de marché local. Si la première étape, c'était de fournir des clients sur le marché béninois et qu'une de la production suffit, on peut imaginer effectivement de répliquer le même modèle dans d'autres pays où il y a des chaînes de valeur agricoles avec une forte demande. Là où probablement je mettrai la question joker, quand vous avez des clients qui ne sont plus dans le pays en question, imaginez la production béninoise est extraordinaire une année, le marché béninois ne peut pas absorber, mais il y a une folle demande au Burkina Faso, par exemple. Comment vous gérez toute la chaîne logistique pour justement équilibrer l'offre et la demande au niveau régional? C'est une première question avant de répondre complètement à la question.
C'est une bonne question. En fait, la plateforme Agrosphère ne se charge pas de commercialiser. Elle va simplement servir de place de marché et mettre en face des producteurs des débouchés, des acheteurs, des transformateurs et des exportateurs. On compte en guillemets sur le marché pour se réguler entre l'offre et la demande. Simplement aujourd'hui, ce qui n'existe pas et qu'on apporte, c'est de mettre justement ce public-là en face. Il y a des producteurs qui ont des produits, il y a des demandes dans les pays voisins, mais les deux ne se connectent pas. Aujourd'hui, on va apporter cela. Et d'où aussi la nécessité de s'internationaliser très rapidement, c'est que le besoin, c'est de couvrir à minima dans les 5 prochaines années l'Afrique de l'Ouest, pour que ça devienne un marché assez global,
mais régional. D'accord. Donc vous ne supportez pas en fait le risque logistique ni de transfert
la marchandise. On propose d'accompagner aussi ces acteurs-là, parce qu'ils font partie de la chaîne de valeur, donc de digitaliser, de pouvoir suivre par exemple l'itinéraire de transport, des choses comme ça, on travaille déjà dessus. Mais ce n'est pas notre responsabilité. On accompagne, on offre des services et des solutions à tous les maillons de la chaîne, sans remplacer leur
rôle.
Oui, oui. Parce qu'il propose une plateforme. Et donc, une plateforme de suivi qui met en relation, c'est le Uber des produits agricoles.
C'est peut-être un peu le génie du concept, c'est que finalement, il n'y a pas les galères qui vont avec.
Exactement. Donc, s'il ne rentre pas dans la logistique de transport, de transformation, il se borne à faire du conseil et à recenser les données du marché. C'est, entre guillemets, le rôle, je ne vais pas dire le plus facile, mais en tout cas le plus simple, parce qu'il ne gère pas, entre guillemets, toutes les galères de la filière agricole. Donc, à ce moment-là, l'exportation de votre produit vers d'autres marchés, enfin, de votre concept vers d'autres marchés est relativement facile, une fois que vous avez des gens qui peuvent collecter l'information et constituer le réseau que vous avez mis en place au Bénin, pouvoir le dupliquer dans les autres pays. Donc, effectivement, je pense que l'expansion doit être, à mon avis, d'autant plus rapide que vous ne gagnez de l'argent que sur les transactions. Donc, il vous faut du volume.
Et le Bénin, c'est trop petit pour le Bénin.
Exactement. Donc, pour du volume, il faut aller probablement rapidement sur des marchés autres que celui du Bénin, et puis voir dans la chaîne de valeur comment vous pouvez gagner de l'argent en dehors juste de la transaction. Qu'est-ce que j'entends par là? Si demain, ça vienne, il y a un ananas très célèbre, ou des jus qu'on achète en supermarché ici, qui vient des États-Unis, aller au-delà du marché régional et africain pourrait même constituer une source de revenus non négligeable, parce que ce que nous constatons souvent, c'est que les acheteurs de ces produits agricoles localement ont parfois un problème de transformation et donc de création de valeur sur les produits. Et comme Francis est dans le modèle de chaîne de valeur, s'il arrive soit à encourager les producteurs à aller dans la production, dans la transformation, et créer plus de valeur, et donc plus de valeur aussi pour la cité de Francis...
Ou à les mettre en relation avec des transformateurs.
Exactement, où là justement, Francis redevient, en guillemets, un nouvel acteur dans la chaîne de transformation, où là, il crée de la marge sur son business... parce qu'il va où est la valeur ajoutée. Quand on prend l'exemple du cacao, bon, tout le monde le sait, hein, c'est-à-dire sur 10 euros de chocolat qu'on a acheté en supermarché, le producteur peut-être touche 50 centimes.
Oui, vous êtes optimiste.
Ou 20 centimes, oui. Donc la valeur ajoutée ailleurs. Et donc dans le business de Francis, effectivement, le volume d'activité va être important pour générer du cash, mais aussi comment arriver à trouver un modèle pour aller un peu plus loin dans la filière, pour gagner de l'argent sur la partie transformation avec vos partenaires.
Aujourd'hui, Francis, vous avez aussi une question. Vous croulez un peu sur le poids de la gestion.
Moi, je me pose cette question-là, donc Didier, c'est à quel moment on peut commencer, quand on est une start-up, à se poser la question de est-ce que je recrute, par exemple, une assistante ou une RH. Enfin, quand est-ce qu'on peut commencer à se poser ce genre de questions? À quelle taille
C'est lié surtout au volume de votre activité. Si l'activité se développe très vite, effectivement, il y a un besoin d'organisation très rapide.
Vous avez fait fois combien en combien de temps, là,
et
par
on
exemple
peut être, on a été trois en début 2017 et en fin 2018, on était huit. Donc, on fait fois deux.
Et sur le volume de l'activité?
Sur le volume de l'activité, disons qu'on fait fois 40 chaque 6 mois à peu près.
En chiffre d'affaires?
Oui.
Oui, parce que c'est exponentiel. Bon, qui commence petit, c'est aussi c'est normal qu'ils grandissent très vite. Et donc forcément, si vous êtes en cycle de croissance accéléré, il faut effectivement avoir une équipe administrative assez solide. En fait, la question, est-ce que vous pouvez payer une équipe administrative? Si vous pouvez payer, il faut le faire très tôt. Sinon, après, c'est un peu tard parce qu'on a plein de problèmes organisationnels. Comme vous le savez, en plus, vous êtes ingénieur. Donc après, les problèmes s'accumulent. Et souvent, ce n'est pas forcément des gros salaires. Donc mon conseil... Le business étant en train de croître, il faut absolument renforcer les fonctions support, les fonctions admin pour suivre votre croissance et vous occuper des questions commerciales et techniques.
C'est ça.
Vous
voilà.
Y croyez à ce projet, j'ai l'impression.
Ah bah oui, oui, oui. En fait, moi je pars toujours du point de départ. Est-ce qu'il y a une demande? Est-ce qu'il y a un besoin? Est-ce qu'il y a une demande? Et effectivement, il y a une demande, il y a un besoin. Donc forcément, le produit de Francis répond à cela. Mais il faut juste effectivement trouver le bon angle, le bon positionnement. Et puis surtout, la présentation de Francis est vraiment très bien faite à Grosfer. Bon, les auditeurs ne le voient pas, mais c'est très bien présenté.
Le business plan.
Oui, même la plaquette, etc. Donc, on voit bien qu'ils ont bien étudié leur modèle.
Il y a beaucoup de concurrence en vue ou déjà présente sur ce type de marché. Peut-être pas au Bénin, parce que c'est un petit pays, mais dans d'autres pays, il y a exactement la même chose. Vous avez fait un copier-coller de ce qui existe, par exemple, en Afrique anglophone ou pas?
Non, on n'a pas fait de copier-coller. On a regardé un peu, en effet, ce qui existait. On est, à mon avis, aujourd'hui, dans un positionnement unique où on apporte l'optimisation opérationnelle et la mise en relation. Il y a des acteurs qui font que la mise en relation, par exemple, avec quelques points forts et quelques inconvénients, je pense, à ce modèle-là. Nous, on a un positionnement qui est autre, en fait, qui est d'accompagner d'abord sur l'optimisation opérationnelle, parce que c'est un constat personnel qu'on a fait quand on a étudié le marché. On pense, c'est un peu ce que disait tout à l'heure Didier, c'est que sur un marché où 80%, par exemple, de tomates qui sont produites finissent dans le caniveau, en guillemets.
Alors, la tomate, c'est aussi très difficile à transporter, fragile.
Oui, mais pas tant que ça. La tomate, il suffit de la maintenir pendant quelques jours à la bonne température et elle peut se conserver un ou deux mois de plus. On gagne facilement. Après, c'est des budgets.
Vous saviez que vous mangez des tomates qui avaient deux mois de frigo, Didier ?
Ah, pas forcément deux mois, mais je sais que ça se transporte et que ça vient de tous les pays du monde.
Ça se conserve plutôt bien en chambre frigorifiée.
C'est un défaut d'équipement, un défaut d'accès à l'information, à la connaissance agricole.
Sur la tomate en particulier, c'est plutôt un défaut d'équipement parce qu'il faut forcément réfrigérer le local. Mais en reprenant la tomate, une partie de ce qui est gaspillé pourrait être utilisé si l'information circulait bien entre l'offre et la demande.
Et puis qu'il y a la logistique.
Ouais. Parce que souvent, les gens ramollissent, il y a forcément quelqu'un qui a besoin de tomates. C'est ça.
Et c'est que les gens produisent dans les campagnes. Et donc satisfont un besoin local. Ouais. Et le besoin local ne peut pas absorber forcément la production, donc le reste pourrit puisqu'il n'y a pas de chaîne logistique de transport, de conservation, d'exportation. Francis est dans l'opérationnalisation, en guillemets, des acteurs. Demain, si par exemple, il y a une société qui vend des engrais que vous recommandez à vos paysans, je suppose que vous allez toucher des revenus là-dessus. S'il y a des experts qui font l'optimisation agricole que vous recommandez, vous allez générer des revenus là-dessus. Donc,
la plateforme peut s'étendre.
Exactement. Donc, le modèle de génération de revenus, Francis nous dira dans une vie prochaine ou peut-être après l'émission comment ils vont développer tous ces éléments dans le cadre de l'opérationnalisation.
On a identifié ces points-là. Un exemple concret aussi, c'est qu'aujourd'hui en Afrique, les acteurs du monde agricole ont beaucoup de mal à aller faire des petits prêts ou même assurer leur activité. Bon, assurer l'activité, c'est quasiment inexistant. Il n'y a aucun agriculteur en Afrique, par exemple, qui a assuré son activité. Aujourd'hui, contre les intempéries, par exemple, ou contre une attaque de criquet qui va tout ravager. Mmh. Voilà. Notre plateforme va permettre aussi de cumuler d'informations sur ce que chaque producteur est capable de fournir comme performance et de constituer une sorte de dossier qu'on peut aller présenter à une banque pour dire, bon voilà, tel producteur qu'on accompagne depuis 3-4 saisons sort telle volumétrie d'ananas, tel chiffre d'affaires, donc vous pouvez lui prêter jusqu'à tel montant. Et donc ça aussi, c'est des modèles de services sur lesquels on compte pouvoir avoir quelques revenus.
Francis, merci beaucoup d'être passé dans le studio. Vous restez avec nous, bien sûr, si vous avez envie de prendre la parole pour les autres projets. On va leur laisser la parole, hein, les autres jeunes entrepreneurs.
Il fallait qu'ils soient en studio, comme Francis.
Exactement, mais c'est vrai que le projet est intéressant. Allez, vous nous appelez au 33 1 84 22 71. 71, c'est aussi le numéro WhatsApp.
7 milliards de voisins.
7 milliards de voisins, c'est maintenant.
Avec le coach Didier à côté.
Et le coach reçoit des entrepreneurs, écoute et conseille. On donne la parole à Henri, 39 ans, qui est à Yaoundé, au Cameroun. Bonjour Henri.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous.
Bonjour Henri.
Henri, vous avez un parcours intéressant parce que vous êtes un artisan d'art en ameublement d'intérieur. Vous avez été formé au Centre artisanal et communautaire d'Afrique de Yaoundé, au Centre de la jeunesse de Bétamba, dans le sud du Cameroun. Vous avez travaillé chez des fabricants de meubles et vous avez démarré votre propre entreprise. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans votre parcours, il y a eu deux échecs. Vous avez lancé une première boîte d'entreprise dans le textile. Vous vous êtes cassé la figure. Ensuite, en 2012, vous avez lancé une entreprise de portes et fenêtres. Vous vous êtes cassé la figure. Je dis pas du tout ça pour vous enfoncer, Henri, parce que moi, j'entends dans les émissions régulièrement des coachs qui disent « Si vous n'avez pas connu d'échec, vous ne pouvez pas réussir. » C'est pas vrai, Didier ?
Non, mais c'est vrai. Comme on dit, le paradis, faut peut-être passer en enfer avant d'aller au paradis. Donc, faut traverser la vallée de la mort, et c'est ça qui est intéressant.
Vous êtes mûr pour réussir et vous êtes en train de réussir, je pense. Henri, vous avez créé il y a 5 ans une entreprise qui s'appelle Espace Rotin, qui est une société de fabrication de meubles en rotin et bois. Comment vous êtes arrivé au rotin, finalement, Henri ?
Alors, un jour, je regardais une série brésilienne, puis j'ai vu des meubles en rotin avec des décos en bois. Et puis je me suis dit que waouh, pourquoi est-ce que je ne veux pas faire ça ici chez moi? Donc, alors j'ai commencé par faire un salon.
Parce qu'il y a beaucoup de rotins au Cameroun, c'est ça, hein?
Il y en a partout, parce que comme on est dans une région tropicale, il y a la forêt, donc il y a plein de rotins, plein de bambous.
Et pas tellement utilisés finalement.
Qui n'est même pas utilisé. Parce qu'on n'utilise même pas le 15% de ce qu'on a ici. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai l'idée. Je me suis dit, bon, puisque moi je faisais déjà dans l'ameublement en bois, donc j'ai dit qu'il fallait que j'apporte un plus. Et c'est comme ça que je me suis lancé.
Alors, le résultat, ce sont... Moi, j'ai vu les photos. Didier à côté est en train de regarder les photos. C'est hyper design. Ouais. Alors, il regarde aussi. Je vois qu'il est en train de regarder les comptes de l'entreprise. Mais quand même, Didier, pour votre salon, il y a des canapés, il y a des, ce qu'on appelle des méridiennes en rotin. C'est bien fini, c'est bien fait. C'est très tendance.
Oui, très joli, de belles couleurs.
Ouais. Qu'est-ce qui marche le mieux dans tous vos produits, Henri ?
Bon, voilà, c'est ça mon problème. Parce que... Vous voyez, tous ces produits-là, on fait à la main. Et on a une multitude de produits. Donc, la question que je voulais savoir, c'est est-ce que je dois proposer un seul produit, c'est-à-dire un produit qui marche sur le marché, ou alors produit plusieurs variétés.
Le produit qui cartonne, là, en ce moment, c'est le canapé, c'est ça ?
C'est le canapé, oui. Le canapé qui est sur ma... qui est à la une.
Le canapé en rotin.
Voilà.
Alors, déjà, félicitations, vraiment, c'est des très beaux produits, en tout cas de ce qu'on voit en photo, avec en plus un business qui sent bien fonctionner, une bonne marge, une bonne rentabilité. Il faut avoir une gamme de produits, c'est indispensable pour deux raisons. La première raison, c'est que lorsque votre marché reconnaît la qualité de vos produits, c'est important de lui montrer que vous avez de la variété pour augmenter votre potentiel de business. Parce qu'une fois que votre client a acheté une méridienne ou un fauteuil de terrasse, si vous proposez que ça, vous ne pouvez pas le fidéliser jusqu'à ce que celui-là soit détruit. Voyez. Donc c'est indispensable d'augmenter entre guillemets le panier de ce qu'on appelle votre clientèle pour que votre business puisse se développer et survivre. Donc ça, c'est extrêmement important d'avoir une gamme de produits, même si elle n'est pas très large au début. Deuxièmement, c'est que si vous avez ce produit phare et qu'un concurrent propose le même produit phare avec la même qualité ou un petit design différent, vous allez avoir du mal à rattraper, entre guillemets, votre vitesse de développement parce que vous allez être, entre guillemets, avoir trop de requins, entre guillemets, dans la mer bleue. Donc, c'est très important. Ne restez pas sur un produit. N'allez pas non plus sur une gamme trop large, parce que c'est aussi ça le piège. Si vous avez une gamme qui est trop large et que les consommateurs n'y adhèrent pas, vous allez voir que vos coûts de production ont explosé, vos coûts de main-d'œuvre, etc.
Comment on détermine une gamme, mais pas trop large, mais pas trop étroite ?
Alors justement, comme il connaît son marché, il faut qu'il regarde ce qui se consomme le plus sur le marché ou le besoin du consommateur vers où il va pour que dans sa gamme, ils s'organisent pour avoir ces produits.
Donc il faut que vous ayez accès à des études marché beaucoup plus larges que ce que vous faites vous-même, Henri. C'est bien ça. Encore faut-il avoir accès à ces études.
Alors, généralement, ces études n'existent pas.
Ah oui, d'accord.
Mais s'il les a, peut-être qu'il les a, il suffit de prendre des jeunes et d'aller dans les supermarchés et les artisans.
C'est ça, vous allez dans une école de commerce, vous allez demander
des
étudiants.
Vous prenez des jeunes dans la rue. Vous les postez dans tous ces magasins à Bastos, tous les quartiers que vous connaissez, et ils font du décompte à la journée. Donc vous faites des statistiques sur une semaine par exemple, et vous voyez les produits que les clients sont venus acheter dans ces espaces ou chez ces artisans. Donc ça vous donne des tendances déjà de marché, parce que c'est comme ça qu'on fait une étude de marché s'il n'y a pas de données statistiques. Il faut les collecter sur le terrain. Mais pour revenir à la question d'Emmanuel, quand on dit une gamme de produits, si aujourd'hui vous n'avez que 3 produits, c'est bien d'élargir à 5, 6 ou 7. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, c'est ce qu'on appelle en marketing, votre portefeuille produit, vous allez avoir le produit star, qui est vraiment le produit le plus vendu, qui est connu de tout le monde. Vous allez avoir le produit vache à lait, celui qui vous ramène le plus d'argent. Et puis après, vous allez avoir le produit, entre guillemets, qui est en croissance, et puis le produit qui est mort, le dog. Enfin bon, c'est une matrice en 4 cases que vous pouvez trouver sur Internet. Donc, c'est important d'avoir un portefeuille produit et une gamme de produits à minima si vous voulez continuer à vous développer comme vous avez commencé à le faire.
Alors Henri, je sais que vous avez aussi des problèmes de fabrication. Vous formez des apprentis, d'ailleurs vous êtes payé pour former ces apprentis. Vous proposez aussi des services de décoration intérieure, donc voilà, tout ça pour essayer de faire rentrer un petit peu plus d'argent. Mais vous avez un vrai problème sur le suivi, sur la qualité de fabrication.
Et tout ce que vous voyez là, c'est fait à la main, c'est-à-dire 100% à la main. On utilise peut-être un peu 5% pour l'outillage. Dans mon projet de développement, j'aimerais mécaniser au moins ce 60% du système de production. Parce que la demande, on n'arrive pas à satisfaire la demande parce que on a le temps de fabrication, ça nous prend tellement de temps. Si on va le faire un fauteuil, par exemple, comme vous voyez à la main, ça va nous prendre une semaine, parfois deux, parce qu'on fait du départ jusqu'à la fin à la main.
Mais attendez, moi, je voyais vos prix. Un canapé plus deux chaises, 200 000 CFA en moyenne, c'est ça? Ça fait à peu près 300 euros, plus 40% de frais de port pour l'Europe, parce qu'il faut savoir que maintenant,
Ça, c'est quand on me demande, quand j'ai la demande en Europe.
Oui, c'est ça. Parce que vous avez des demandes maintenant en Europe, hein, France, dans les DOM-TOM, Martinique, etc. Comment vous faites des prix très bas quand même, avec un travail à la main qui prend autant de temps? Comment vous pouvez vous en sortir?
Bon, on a essayé de voir un peu le marché, comment est-ce que les gens peuvent payer. Parce que le marché d'abord, c'était localement. C'est-à-dire, on faisait pour. Ouais,
donc
le Cameroun,
il ne faut pas être trop cher.
Et ensuite, j'ai donc imaginé, un an et demi, un système de machines que j'ai commencé à un prototype de machine que je voulais faire pour que ça me donne facilement faire un canapé de 3 jours à maximum 1 jour ou 2. Parce qu'on a la demande qu'on n'arrive pas à satisfaire parce que on ne peut pas livrer à temps, on ne peut pas donner le produit exact, on ne peut pas faire ci, et parfois les clients s'en vont. Parce que je fais beaucoup la vente plutôt, beaucoup plus sur Internet.
Oui. Et par ailleurs, vous avez aussi des soucis de suivi de consignes de fabrication d'un meuble par vos employés, qui sont des autodidactes aussi. Vous nous avez dit, quand on a préparé l'émission, que vous êtes tout le temps en train, finalement, de vous disputer avec le chef d'atelier, le vanier, etc.
Oui, parce que les clients me donnent les commandes à l'avance, c'est-à-dire ils me donnent une photo. Quand moi, je donne au chef d'atelier, je lui dis, bon, voilà ce que je veux. Il me fait autre chose. Et puis, on est en train de se tirailler. Et puis, on a les conflits. Et voilà, c'est ça le problème.
Non, mais c'est normal. La deuxième question avant les disputes entre le chef d'atelier est extrêmement importante. Vous êtes, à mon avis, obligé de mécaniser, de semi-industrialiser un petit peu votre affaire. Et vous avez raison. Parce que ce que j'allais vous dire, vos produits, c'est vrai, ils sont très bien faits, ils sont faits à la main, mais des produits qui arrivent de Chine, le client ne sait pas s'il est fait à la main, l'ensemble est vendu peut-être 100 000 francs ou 80 000 francs, vous voyez, livré au client. Donc c'est impératif, effectivement, d'industrialiser un minimum votre production pour aller plus vite. Et puis même, le chef d'atelier en question, et la troisième question, vous lui envoyez une photo. Si vous faites du design assisté par ordinateur et que vous avez des logiciels en réalité, le chef d'atelier ne va pas vous faire autre chose. Parce que la photo qu'on vous envoie, vous avez des logiciels qui vous le redessinent. Et le chef d'atelier, en fait, le logiciel lui ressort ça en pièces et il n'a plus qu'à fabriquer. Et ça aussi, c'est le danger du travail à la main qui devient un peu de l'amateurisme, qui peut tuer votre business. Or, aujourd'hui, il y a des outils qui vous permettent de lever, en fait, ces obstacles. Aujourd'hui, honnêtement, donc... Votre chef d'atelier et
donc il faudrait embaucher un jeune un peu calé en informatique qui puisse équiper Henri d'une certaine manière.
Oui, oui, en fait, qui va se renseigner sur Internet, il y a des logiciels, je ne dis pas de faire de la production assistée par ordinateur, mais des logiciels qui font les dessins et qui vous les décomposent en pièces, qui permettent, quand ça va à l'atelier, que chacun sache exactement ce qu'il a à faire. Et ça peut éviter bien des conflits, à mon avis.
D'autant plus que je crois que vous avez un enjeu, Henri, c'est la Cannes 2021, où là, vous voulez absolument trouver un endroit...
Ça a lieu au Cameroun, finalement.
Oui, exactement.
Comme il est désagréable.
Non, je provoque un peu. Parce que je lisais récemment que finalement, c'était 2021.
Et donc, vous voulez avoir un vrai showroom, ce qu'on appelle maintenant un showroom, salle d'exposition. Vous allez pouvoir montrer vos produits.
Voilà, j'aimerais avoir trois. Donc, un à Douala, un à Yaoundé et un à Kribi. En plus, il y a un port qu'on a construit. Puis il y aura du trafic, je suis sûr.
Mais donc, il faudra pouvoir suivre ensuite derrière carnet de commandes.
Oui. À Kribi, vous allez faire un malheur, parce que j'ai été à Kribi, il n'y a pas grand-chose, et vos produits, à mon avis, correspondent très bien aux besoins de ce marché-là.
Tout le monde a besoin de rendre sa maison jolie, les particuliers, les hôtels, les restaurants, etc.
Oui, il y a une question que je devrais nous poser à une seconde, c'est est-ce que c'est bon de faire une levée de fonds sur des plateformes crowdfunding ou alors de céder des parts de marché?
Céder des parts de capital.
Bon, je pense que vous pouvez faire du crowdfunding pour l'instant. Tout dépend du montant que vous voulez mobiliser. À peu près combien vous recherchez?
25 millions.
Presque 40 000 euros, quoi. Un peu moins de 40 000 euros.
Oui, quand même. Ça, c'est pour les équipements, pour acheter des machines, etc.
Machines, voilà, exactement.
Bon, pourquoi vous ne faites pas du leasing, par exemple, pour les équipements? Vous savez ce que c'est le leasing, hein? Parce que les équipements, c'est 80% de l'investissement à peu près?
Oui, c'est 80%. Et en plus, moi-même, je devrais fabriquer parce que ici, j'ai déjà essayé de trouver. On a même acheté une ici en Chine, mais qui ne répond pas à notre besoin parce que notre matériel n'est pas comme celui de la Chine.
Ah,
donc,
oui, oui.
C'est tout ça. Voilà. Voilà.
Non,
donc, on va le fabriquer localement.
Peut-être pour l'instant, sans vouloir forcément ouvrir votre capital, dans un premier temps, prenez une forme de la solution de crédit bail pour financer l'investissement et puis un peu de crowdfunding pour le reste. C'est-à-dire que de crowdfunding, vous pouvez lever 15, 20 000 euros facilement, de toute façon, et puis le reste, investissement avec du crédit bail, ça... Parce que comme le business est en train de grandir, soit vous me dites, avec mes 3 magasins, mes 3 showrooms, je vais démultiplier ma production. Et là, on n'est plus du tout en train de parler du même business. C'est-à-dire que vous allez faire peut-être 3, 4, 5 fois la croissance actuelle. Et là,
si la production suit.
Et va au-delà. Donc, vous allez devoir équiper les ateliers, recruter encore. Vous allez changer de taille. Et à ce moment-là, les montants ne sont pas les mêmes. Là, oui, ça serait bien d'ouvrir le capital peut-être et de faire entrer des investisseurs pour aller au-delà
et autre difficulté, vous avez entendu à mi-mot ce que vous nous disiez Henri, c'est qu'en plus s'il achète des machines chinoises adaptées au rotin chinois, ça ne fonctionne pas, donc il va falloir les fabriquer sur place. Encore une nouvelle entrave, une nouvelle difficulté, c'est bien ça Henri, hein, si j'ai bien compris.
Oui, tout à fait.
Ouais, et ben voilà, les patrons de PME en Afrique, c'est des héros, hein, et des inventeurs
des
permanents.
Absolument.
Merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous, Henri. Très très bonne journée à Yaoundé. Aujourd'hui, vous continuez de nous téléphoner au 33 1 84 22 71 71. On accueille dans quelques instants Noum, un repat à Bamako, au Mali.
7 milliards de voisins.
T'as un projet, t'as un business plan, alors viens en parler au coach.
JPAG, jeune patron de l'Afrique qui gagne.
Vraiment, l'Afrique regorge de talent.
Noum est en ligne avec nous, 27 ans à Bamako. Bonjour Noum.
Bonjour.
Avec votre épouse Célie, vous êtes ce qu'on appelle un couple de repates. Vous êtes né en France, vous avez vécu à Paris, vous, jusqu'à l'âge de 13 ans, après lycée français de Bamako. Retour en France, études en France, un diplôme d'ingénieur en risques industriels. Retour ensuite à Bamako. Vous avez travaillé 2 ans comme directeur commercial au Ghana. Et puis, vous avez créé il y a 2 ans, parce qu'il faut le dire, hein, c'est votre épouse qui vous a peut-être influencé, je ne sais pas, mais elle est dingue de mode, de prêt-à-porter. Et vous avez créé Nose. Donc, c'est la contraction de N-O, les 2 premières lettres de votre prénom et de celui de votre épouse. Un magasin de prêt-à-porter et de couture sur mesure. Moi, comme ça, vu de loin, à Bamako, je dis rien de révolutionnaire quand même.
A priori, c'est vrai. Bonjour, nous. Mais on va vous laisser quand même nous dire quelle est la valeur ajoutée.
Oui, comme vous le dites, il n'y a rien de révolutionnaire, mais souvent la révolution se fait dans la manière de faire.
Oui.
Et pas dans un nouveau produit.
D'accord.
Comme vous l'avez dit, ben c'est bien. En fait, c'est un complexe, un atelier de couture et aussi un magasin de prêt-à-porter. Mmh. On allie le style occidental avec des tissus africains.
Oui.
Et aujourd'hui, on essaye toujours de se distinguer. En fait, à travers 2 choses. La première, c'est de respecter les délais. Parce qu'on a pu remarquer que sur 10 ateliers de couture ici au Mali, 9 ont des problèmes de rendu de vêtements dans les temps. Donc nous, on se prononce ici, on essaie de se positionner de cette manière-là, en essayant toujours de respecter les délais. Donc aujourd'hui, les gens ils connaissent Nose à travers ça, et aussi à travers l'accueil chaleureux que nous offrons. Quand les clients y viennent, on arrive à les accueillir de façon très positive. On a un salon où on peut discuter sur réellement quels sont les styles exactement que vous souhaitez. Il y a vraiment en fait une relation étroite avec les clients.
Vous êtes toujours en phase de développement, mais vous arrivez à couvrir vos frais. Est-ce que vous êtes bénéficiaire ou pas encore, Noum ?
Oui, actuellement, nous faisons des bénéfices. Nous sommes en phase de développement. On a développé très rapidement le côté atelier de couture. Il fait aujourd'hui 90% du chiffre d'affaires, mais le prêt à porter ne fait que 10%. Donc en fait, notre problématique aujourd'hui, c'est un peu ça. Donc là, on a pour objectif de faire développer le côté prêt à porter pour atteindre 30 à 40% du chiffre d'affaires. Et pour cela, on a décidé d'organiser chaque 2 mois des ventes privées dans notre atelier afin de justement faire développer ce côté-là prêt à porter. Un truc que nous allons commencer d'ici peu.
Alors, vous avez 2 problèmes, Noum. Un premier problème, oui. Je dirais, c'est un problème un peu de repâte. On en parlait d'ailleurs au début de cette émission, on parlait du Forum des Diasporas en Côte d'Ivoire avec Didier Akwété. C'est que vous n'êtes pas forcément en phase sur le plan du management, de la fabrication, etc., avec les personnes que vous employez.
C'est vrai que c'est souvent le problème que les repâtres rencontrent localement. Et en fait, nous avons des couturiers qui sont autodidactes. Personnes qui ont appris à faire de la couture sur le terrain, mais qui n'ont pas fait l'école, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas lire et écrire. Ces gens-là, en fait, développent la culture de l'assistanat. Et ça, c'est un problème pour nous, dans le sens où, quand nous cherchons à nous développer, par exemple, on pourrait avoir peut-être 2 à 3 boutiques, ou même, vu qu'on vise aussi l'international, si on est amené à faire des voyages à l'international, comment est-ce que ça va se passer dans notre atelier? C'est ça, en fait, aujourd'hui, notre problème. Et on compte justement sur le code Didier pour essayer peut-être de répondre à notre question.
En fait, il y a une forme d'insécurité managériale, d'une certaine manière, pas d'initiative de la part de vos employés. Vous avez un autre problème également, qui est l'export.
Oui, ça c'est un gros problème, parce que nous, on a souvent des commandes qui viennent de Paris. La problématique, c'est que quand nous voulons envoyer ça de façon formelle, les coûts sont très élevés. Qui va faire que notre produit va coûter cher.
Oui, c'est-à-dire que tout à l'heure, on avait un entrepreneur sur le Rotin qui nous disait 40% de frais d'envoi pour livrer ses marchandises en France ou ailleurs. Donc ça veut dire que pour l'instant, vous n'exportez pas, ou alors de manière via les valises de bons amis, c'est ça?
Voilà, ouais. Via le réseau informel, mais c'est un réseau qui n'est pas fiable et on ne peut pas se baser sur ça pour
c'est
une opportunité de
business. Donc, Didier Akwété, le coach, alors.
C'est vrai que c'est un produit MeToo. Bon, l'accueil chaleureux, Noum, c'est sympa, mais tout le monde peut offrir le même accueil chaleureux, offrir les mêmes tissus, copier vos produits, etc. Donc, c'est pas la question. Je vois.
Vous voulez dire qu'en fait, cette entreprise, elle a déjà un plafond de verre là sur la tête?
Non. Tout dépend. Quand vous dites tout le monde, tout dépend de où.
Non, quand je dis tout le monde, c'est-à-dire que vous n'avez pas, vous avez comme par exemple le projet de Francis au début, hein, ouais. Où il a des avantages concurrentiels, des avantages comparatifs.
La plateforme agricole de services agricoles.
Qui n'est pas la même chose, mais on va vous commander des produits à l'étranger. Si vous n'avez pas d'avantages comparatifs distincts, le client final ne serait pas prêt à payer un surcoût, en guillemets, pour justifier le produit que vous lui envoyez. Donc, j'ai pas vu les vêtements, hein, mais simplement, je reviens juste un peu en arrière pour dire, c'est extrêmement important d'avoir des avantages tangibles, parce que celui qui commande, vous ne lui réservez pas forcément l'accueil physique, puisqu'il n'est pas dans votre boutique à Bamako. Mais la première question, sur la question de la fiabilité de votre personnel, de la professionnalisation, vous êtes sur un marché où malheureusement ça fonctionne comme ça dans tous nos pays, malheureusement, en Côte d'Ivoire, au Togo. Donc, si vous voulez construire une industrie autour de la mode ou autour de la confection, il faudrait à un moment donné qu'on accepte d'avoir à demeure des employés qu'on forme, qu'on rémunère bien, avec lesquels on crée une industrie, avec lesquels on va grandir ensemble. Le tailleur à qui vous sous-traitez vos produits, et moi-même ça m'arrive en Afrique, on dit tiens, on veut un pantalon, et le gars, 2 semaines après, c'est toujours pas prêt, parce qu'on t'est une commande ou c'est une fête, etc. Donc, vous ne maîtrisez pas en réalité la chaîne de valeur de votre activité.
Enfin, vous avez forcément vos propres couturiers. Vous avez 5 couturiers, 9 personnes en plus, au total.
Oui, non. Quand vous dites « ils cultivent l'assistanat », mon point, c'est qu'ils sont dans un modèle qui n'est pas un modèle intégré de chez vous. C'est comme le tailleur que vous prenez à l'extérieur. Vous allez, vous lui donnez un modèle à faire, vous revenez, il n'a peut-être pas eu le temps de le faire, vous devez être assis pour qu'il le fasse. Donc, si vous voulez, ce que font vos employés, pour moi, n'est pas étranger à ce qu'on voit habituellement. Et donc, je me dis simplement, en termes de management, comment vous construisez un modèle différent intégré avec des employés qui sont complètement dans votre business model,
et dans la
votre
vision
business
du moyen
exactement,
terme.
Avec toute la valeur ajoutée que vous nous décriviez si bien au début de l'émission. Sinon, ils sont chez vous, mais ils fonctionnent simplement comme s'ils étaient ailleurs, comme on le voit habituellement.
Est-ce que vous racontez votre vision à vos employés, d'ailleurs, comme vous venez de le raconter à Didier Akwété?
Oui, on essaie toujours d'être derrière eux.
Ouais. Je vous sens un peu découragé.
Oui, mais parce que
non,
c'est
non,
fatigant.
Pas du tout. On n'est pas du tout découragé. C'est un challenge. C'est des réalités qu'on a su en commençant. Ouais. Et justement, on essaie tous les jours de faire mieux. Et d'expliquer, d'éduquer, comme je disais, de former nos tailleurs. on sent une petite évolution par rapport au début.
Alors, mais il y a Francis qui veut intervenir, le premier entrepreneur du début.
Bonjour Francis, c'est juste pour partager aussi un peu avec vous une expérience qui est...
Les états d'âme de repas.
C'est ça, voilà. On vit la même chose, même si moi, mon domaine est complètement différent. Je travaille plutôt avec des informaticiens, des développeurs. C'est toujours la même chose, c'est qu'il faut être continuellement... en train de reparler du projet, de partager la vision, parce que en fait, sinon on a quelque part des mercenaires en fait qui sont dans une vision de je viens, je fais un boulot, je m'en vais et je fais des choses à côté.
Voilà.
Donc il faut vraiment les intégrer je pense.
Donc communiquer.
Je passe beaucoup de mon temps de manager à ça parce que je pense que moi j'ai fait volontairement le choix parce que je suis dans un domaine où j'aurais pu sous-traiter mon développement en Inde ou ailleurs, mais ça faisait partie de moi, de ma démarche, d'avoir des développeurs à Cotonou et dans d'autres pays, quand je me mets dans d'autres pays aussi en Afrique, de développer, de créer localement la solution. J'étais conscient aussi que ça me rajoutait une couche supplémentaire de difficulté.
D'autant plus que vous avez la chance d'avoir des couturiers qui sont à demeure dans l'entreprise. Vous ne faites pas appel à des prestataires. Donc je crois que vous avez compris le message. Hein. Partager votre vision, convaincre, presque un peu comme si vous étiez en campagne politique.
En permanence et développer avec
sur les frais d'exportation, les frais de port, qu'est-ce qu'on peut faire?
Ce que dit nous est simple. Pour transporter un produit A d'un point A à un point B, il y a un coût. Soit votre produit, vous faites du volume et du coup, le coût de transport permet d'amortir à travers le volume.
Voilà, ça
et vous
c'est
gagnez l'argent.
IKEA qui exporte à partir de la Chine.
Voilà, ou alors vous êtes Zara, vous faites du volume. Ou alors, vous faites un produit entre guillemets sur mesure. Vous êtes le Dior de Bamako, enfin, ou le Gucci, et donc le client est prêt à payer un surplus parce que ce que vous lui proposez est unique. Dans mon introduction, je disais, c'est très important, nous, d'avoir des avantages distinctifs qui font que le client est prêt à payer 200% du prix qu'on voulait envoyer ce produit parce qu'il est exceptionnel, parce qu'il est rare et qu'il ne le trouve pas ailleurs.
Et peut-être monter en gamme.
Je voulais juste finir en disant que voilà, que nous, en fait, on a réellement un modèle économique comme Zara, qui est d'avoir en fait des produits à prix accessible. Donc je pense que c'est pour ça que le coût du transport qui est élevé est pour nous une problématique.
Voilà, et maintenant il faut rajouter le volume pour arriver au modèle
Zara.
Voilà.
Exactement.
Très bonne journée à Bamako. Merci d'avoir été en ligne avec nous. Pour tous ceux qui n'ont pas pu passer dans l'émission, je vous rappelle le numéro de téléphone, vous pourrez passer le mois prochain, c'est sûr, parce que Didier à côté va revenir. 33 1 84 22 71 71, vous pouvez aussi nous écrire 7milliards@rfi.fr. Le projet Didier à côté que vous... dans lequel vous croyez le plus?
Dans le projet de Francis, pas parce qu'il est dans le studio, parce qu'il est vraiment dans l'air du temps. C'est vraiment un produit dont les gens ont besoin, rapprocher l'offre de la demande, arriver à cartographier la production, faire le suivi, c'est très important.
Sur le secteur agricole qui a le plus besoin de se moderniser.
C'est une des priorités, c'est une des urgences. Et puis bien sûr, Henri, ce qui fait, on a toujours besoin de s'asseoir, on a toujours besoin de ces produits-là, mais il faut qu'ils s'industrialisent.
Pour embellir sa maison avec les meubles
européens. Et ça, c'est un des vrais enjeux des économies et des PME africaines s'industrialiser.
En tout cas, ils ont tous du courage. Francis, qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter avant qu'on se quitte?
Que ça continue sur la lancée et qu'on signe plein de nouvelles coopératives. Juste un point sur cette partie-là, en effet, c'est qu'on a un modèle où l'utilisateur aujourd'hui, c'est le producteur, mais on essaie surtout de passer par les chaînes de financement classiques de l'agriculture en Afrique aujourd'hui, qui est de l'aide internationale ou des gros projets, des organismes comme PNUD, AFD, ENABEL, FAO. Il y a ces acteurs-là qui financent des gros projets d'amélioration de l'industrie.
Vous êtes en train de nous dire, vous êtes trop petit, vous n'avez pas accès à ces financements-là.
Et on aimerait les accompagner ou qui nous accompagnent. On a la possibilité de travailler ensemble parce que notre solution va les aider à être plus efficaces dans ce qu'ils font sur le terrain en Afrique.
Et il y a des fonds d'investissement aussi qui peuvent être intéressés. Il faut le dire, votre start-up, elle est sur fonds propres exclusivement
tout
avec tous
fait.
Les associés.
Exactement.
Bon, vous irez sûrement très loin. En tout cas, on voudrait avoir de vos nouvelles, Francis.
Merci
à vous, Didier Akouété. Afrique
merci
Talent,
Emmanuel.
Abidjan. Notez bien ça, les voisins, les voisines en Côte d'Ivoire. 11 et 12 octobre. Prochain, voilà, pour rencontrer le coach et puis partager avec les autres talents. L'émission a été préparée par Delphine de Dianous, à la réalisation Steven Elsley. N'oubliez pas que vous pouvez réécouter toutes nos émissions sur l'appli RFI Pure Radio à la rubrique émission et nous retrouver bien sûr sur les réseaux sociaux. Demain, 7 milliards de voisins, les jeunes aux États-Unis. Ils n'ont jamais été aussi diplômés dans toute l'histoire du pays. Ils sont ouverts sur le monde, ultra connectés, progressistes, un peu l'antithèse de la génération Trump finalement. Alors peuvent-ils changer l'Amérique? Réponse avec notre invité Christophe de Roubaix. Il publie Millennials, la génération qui secoue l'Amérique.